Comme Paolo Carile avec son Canudo, je partirai d'un écrivain, en ce qui me concerne un Français, et pas n'importe lequel. Victor Hugo s'est adressé assez souvent aux Italiens. Il l'a fait dans son superbe discours de juin 1860 aux Garibaldiens, dont un extrait figure sur le piédestal de sa statue, qui trône à Rome depuis 1905, vous le rappelez peut-être, vous le savez peut-être, à deux pas de celle de Goethe sur le Pincio. Simplement, Hugo s'est aussi adressé aux Romains avant de venir s'installer définitivement Villa Borghese. En mai 1872, Hugo répond aux démocrates romains qui lui avaient envoyé une adresse depuis le Janicule, où il commémorait le triste siège de 1849 par les troupes du prince-président. Voilà ce qu'envoie Hugo, ravi d'ailleurs de l'aubaine qui lui permet de dire du bien de l'Italie nouvelle, c'est sûr, mais aussi en arrière-plan de rappeler de mauvais souvenirs du prince président, ce qui est toujours une occasion qu'il saisit. Alors, écoutons Hugo. Citoyens de Rome et du monde, vous, peuple romain, par-dessus tous les abîmes qui séparent aujourd'hui les nations, vous avez tendu la main au peuple français. La mère qu'est l'Italie a embrassé la fille qu'est la France. Le Capitole a acclamé l'hôtel de ville. Voilà une bonne réclame pour ce colloque d'italique. Le mont Aventin a fraternisé avec Montmartre et lui a conseillé l'apaisement. Et Hugo poursuit. Caton a fait un pas vers Barbès. Rienzi a pris le bras de Danton. Le peuple romain fait bien de serrer la main au peuple français. Cette fraternité de géants est belle. Alors, au-delà de la rhétorique 48arde, d'amitié romantique entre les peuples, qui avec Hugo se termine toujours par le fait que les Français sont des géants, il me semble que l'on trouve, toutefois, l'esquisse du portrait de Rome comme métaphore de la nouvelle Italie vue de France. Ainsi, la mise en valeur de l'universalité du mythe antique, qui est toujours là, et jusqu'au Risorgimento, et que l'on trouve dans les lignes qui suivent, mais aussi, et de façon plus intéressante, l'insistance sur les manifestations politiques et culturelles particulières du lien entre la France et l'Italie autour de valeurs communes où se retrouvent la permanence des héritages révolutionnaires, l'affirmation des symboles de la sécularisation et de la lutte anticléricale, d'où par exemple le fait que Rienzi est en compagnonnage avec Danton. Alors, à partir de cette image de la synthèse romaine, la question que je vais très simplement me poser avec vous est celle des conditions de renaissance d'une capitale, celle de Rome, à travers d'abord un traumatisme politique qui est lié à la transition territoriale unitaire de 1860 à 1870, puis comme bouleversement social et urbanistique, avant de m'interroger, dans l'esprit du thème qui avait été voulu par Michel Gendron Massalou, Jean Musitelli et Paolo Carile, m'interroger donc sur l'éventuelle mise en place d'une politique culturelle avant l'heure, ou plutôt d'une capitalisation intellectuelle et scientifique de Rome au lendemain de l'unité. Alors oui, le transfert officiel de la capitale d'Italie de Florence à Rome, après la promulgation de la loi du 3 février 1871, parachève un traumatisme politique, un traumatisme national et international. C'est peu de le dire. Les choses ont commencé, certes, bien avant le 20 septembre, bien avant l'arrivée d'ailleurs des troupes piémontaises, que l'on continue d'ailleurs étrangement à appeler piémontaises dans la presse italienne et française, alors qu'il s'agit des troupes italiennes. Rome est depuis 1861 l'enjeu du plus important débat politique de la transition territoriale unitaire. On sait l'écho national et international, notamment à Paris, des trois grands discours de Cavour sur Rome, capitale, et cela prononcé juste au lendemain de la proclamation du Royaume d'Italie que l'on vient de fêter, dont on vient de fêter l'anniversaire en 2011. Cavour intervient à la Chambre les 25 et 27 mars 1861, il intervient au Sénat le 9 avril 1861, et pour lui, très clairement, pour lui qui d'ailleurs n'a jamais mis les pieds à Rome, on le rappelle assez souvent, Pour lui, très clairement, ce qui justifie Rome capitale pourrait se résumer à deux choses. Un, le triomphe de l'État péninsulaire italien et de la sécularisation, de la laïcité contre le temporel du pape. Et deux, on le dit beaucoup moins souvent, l'affirmation d'une vraie vocation méditerranéenne de la future Italie, qui choisit ainsi Rome capitale. Or, on observe tout aussi bien que Cavour se défend d'user d'une argumentation géographique ou géostratégique et reprend à son compte l'idée d'une vocation morale et culturelle de Rome dans l'histoire. Je cite l'un de ses discours, l'un des propos du discours du 27 mars, du 25 mars, « Ora, in Roma, concorrono tutte le circostanze storiche, historiques, intellectuelles, morales, qui doivent déterminer les conditions de la capitale d'un grand État. Roma, poursuit-il, è la sola città d'Italia che non abbia memoria esclusivamente municipali. Rome est la seule ville d'Italie qui n'ait pas de mémoire exclusivement municipale. Et tout est dans cette remarque. La culture, chez Cavour, n'a de sens que si elle est soumise à l'intérêt supérieur du politique. Et la romanité qui a le plus de sens, pour lui, n'est certes pas l'exaltation de la grandeur antique de Rome, mais la permanence d'un sens de l'universel qui épargne Rome de tout municipalisme, de tout campanilisme, de tout localisme. Et ça, évidemment, on ne peut pas en dire autant de Florence, qui est alors capitale. Cependant, le parti romain cavourien se voit opposer, outre le parti du pape, qui défend évidemment la capitale des papes, se voit opposer le parti de D'Azeglio, en Piémont, qui considère que Rome ne rassemble pas les conditions de salubrité géographique et morale. Et il associe les deux. De salubrité géographique, il y a évidemment proximité de la mer, les marées et tout ce que vous voudrez, mais les conditions de salubrité morale n'étant pas réunies, cela se résume à un mot, à une expression pour D'Azeglio. Rome est une ville où il y a trop facilement de pressions, dit-il, extra-légales qui se font jour. Comme le rappelle l'auteur d'une thèse novatrice de géo-histoire sur Rome, une géographe, Géraldine Jamin, les anti-romains se mettent surtout à défendre l'idée d'une centralité géographique et économique de Florence et de Milan contre une centralité historique romaine qui serait dépassée. Nous sommes là au cœur d'une logique de la régénération nationale qui ne passerait pas par l'histoire ni par la culture, ce qui fait par exemple déclarer à un parlementaire milanais très connu, Stefano Iacchini, encore en décembre 1870, donc à la Chambre, alors que Rome vient d'être conquise par les Piémontais, par les Italiens, ce qui lui fait déclarer qu'il suffirait peut-être, pour se débarrasser de toute cette histoire, de donner à Rome le titre de « capitale honoraire »,« capitale honoraria », car, poursuit-il, cette idée romaine d'antiquaire, adoptée par des patriotes libéraux en bonne foi, ne correspond pas aux besoins de l'Italia Nuova, de la Nouvelle Italie. Et de fait, lors du biennio 1870-1871, les problèmes politiques continuent d'accompagner le transfert de la capitale à Rome. Le principal, vous l'imaginez, est lié au rapport avec le Saint-Siège. La question romaine a commencé avec l'annexion des Romagnes 10 ans plus tôt. Simplement maintenant, le fait que Rome soit italienne signifie la fin pure et simple de l'État pontifical, de l'État temporel pontifical, c'est aussi clair que cela. Même s'il reste toutefois quelques signes symboliques d'un entre-deux. Par exemple, le fait que contrairement à ce qu'écrit la propagande anti-italienne et anti-unitaire romaine, les lendemains de la brèche de Porta Pia, donc du 20 septembre, ne sont pas suivis par une immédiate et brutale piémontisation de l'espace urbain romain. En effet, la cité léonine est laissée au pape. Et au début, avant la promulgation de la loi des garanties, on va même jusqu'à considérer le périmètre intouchable laissé au pape jusqu'au château Saint-Ange, jusqu'au castel Sant'Angelo. Nous savons par ailleurs, des mémoires du commissaire de police Manfroni, que tous les historiens de la période ont lu avec délices, qu'on demandait à la police italienne du nouvel État de se montrer discrète jusqu'au Trastevere et quand même de rester toujours en civil pour ne pas provoquer quand cette police était aux abords de Saint-Pierre, alors que par ailleurs, les gendarmes pontificaux, quant à eux, continuaient de parader en grande tenue assez loin de la place Saint-Pierre. Ces débats traversent aussi les partisans de Rome, et pas seulement, et n'opposent pas simplement romains et anti-romains. Ainsi, face aux modérés qui considèrent que la conquête de Rome est un aboutissement, les radicaux, pour parler vite, les garibaldiens, chers à Pierre Milza, dont nous allons sans doute reparler, tout cela juge que la conquête de Rome n'est qu'une étape. Une grande plume de l'époque, Raffaele Sonzogno, fondateur du quotidien La Capitale, écrit même que Rome n'est qu'un pas, en 1870, vers le plein achèvement de l'unification du peuple italien. Roma è l'espressione popolare, nazionale, sintetica dei nostri diritti. L'Italia continuerà a chiedere di andare a Roma. L'Italie continuera à demander d'aller à Rome. En attendant, dès 1870, c'est par milliers que les Italiens arrivent dans leur nouvelle capitale et la cité des papes doit bien se transformer pour les y accueillir. Alors, beaucoup a été écrit sur ce que l'on a appelé la fièvre immobilière romaine. Ces travaux, d'ailleurs, ont été parfaitement analysés dans les synthèses italiennes de Mario et Matteo Sanfilippo et françaises de Catherine Brice. Premier constat, une importante poussée démographique qui est essentiellement liée au solde migratoire. Près de 15 000 piémontais arrivent après la percée des Versalières et à Portapilla, et le chiffre augmente immédiatement avec les commerçants, les artisans toscans, lombards, émiliens qui viennent, sans parler évidemment des ressortissants des régions de l'ancien royaume des deux Siciles. Se gonflent donc les effectifs de ceux que les Romains du peuple appellent en dialecte ou en italien romain les buzzuri. Alors, je ne sais pas prononcer buzzuri parce que tout simplement, et je m'en réjouis, je n'ai jamais été traité de buzzur jusqu'alors. Donc cela me donne une incompétence de prononciation. Buzzuri ou buzzuri, je ne sais pas. En tout buzzuri, eh bien va bene, buzzuri, du terme utilisé dans le centre nord de l'Italie, je le rappelle, pour désigner les Suisses qui venaient de leurs montagnes comme vendeurs ambulants, et sans doute hommes et femmes de peine, si j'en crois l'étymologie populaire qui fait dériver leur nom de buzzur, de l'allemand putzen, laver, ravaler, nettoyer. Bref, la population résidente totale de la capitale, avec ses buzzuri et tant d'autres, est passée de 224 000 habitants en 1871 à près de 300 000 20 ans plus tard. Au tournant du siècle, elle sera autour de 450 000 habitants. Dès lors, deux problèmes se posent. D'abord, après 1870, il faut trouver où et comment implanter les lieux du nouveau pouvoir, ministères et autres bâtiments officiels administratifs, puis il faut loger les populations de ces nouveaux arrivants qui, à la différence des précédentes vagues migratoires, ne sont plus des temporaires, mais sont des permanents. Voyons donc quelques-unes des solutions adoptées. Le chroniqueur de l'époque, Ugo Pesci, qui a laissé des textes très importants sur Florence capitale, considère à l'époque que le transfert de Turin à Florence avait posé beaucoup moins de problèmes que celui de Florence à Rome, parce que Rome, paradoxalement, manquait de bâtiments à usage public, ou alors parce que tous ceux qui existaient étaient des bâtiments essentiellement ecclésiastiques. Les solutions qui s'imposaient relevaient alors soit de l'expropriation et de la confiscation des biens ecclésiastiques réguliers, les lois de février 71 et de juin 73 s'en chargeront, et assez bien, soit de la mise en place de programmes de construction de bâtiments publics. C'est d'abord au nord de la ville que, dans un premier temps, on choisit d'établir les nouveaux ministères. La rue du 20 septembre en témoigne, avec comme premier bâtiment le gigantesque ministère des Finances, construit entre 1872 et 1881, symbole du gigantisme du nouvel État, puisque, d'après les textes de l'époque et les statistiques, il peut accueillir 2300 employés. c'est-à-dire en réalité la somme de tous les employés des 8 principaux ministères italiens, ce qui est, c'est dire le poids qu'on accordait alors à la finance publique avec Quintino Sella. Et l'autre grand ministère, c'est le ministère de la guerre, entre 1976 et 1889, né de la transformation de deux pacifiques monastères, le monastère des Barberines et le monastère des pauvres Carmelitane Scalze, des Carmélites des Chaux. Tout cela pour dire que si l'empreinte monumentale et ministérielle de l'État se veut imposante, les choses ne sont pas si rapides que cela. La vague du Nord prend du temps jusqu'à la construction du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Intérieur, entamé en 1911 sur le Viminal. Simplement, loger les ministres et leurs employés au travail, c'est une chose. Loger leurs familles, ça en est une autre. Je parle des familles et des employés. Dès 1871, les pouvoirs publics réfléchissent aux formes d'urbanisation à privilégier pour accroître l'offre en logement. Deux options, là aussi, se présentent. Développer une expansion moderne vers le nord et l'est, jusqu'à l'Esquilin, près de la ville latine et de la gare, qui vient d'être inaugurée en 1973, ou favoriser le développement d'une urbanisation en petits noyaux vers l'ouest et vers le quartier des Prati di Castello. Plusieurs plans régulateurs et lois spéciales se succèdent. Je n'en ferai pas le détail, l'histoire parle de détail jusqu'à la fin du siècle. Je mentionne simplement celui de 1973 qui s'occupe surtout du quartier de Termini et des thermes de Dioclétien. Le plan de 1983 fait entrer davantage les Prati et dans tous les cas, je rappelle qu'on ne se prive pas, dès l'époque, de dénoncer des opérations de destruction, comme celle de la Villa Ludovisi, mais qui a été vendue par ses propriétaires, et des opérations d'éventrement, le plus célèbre étant l'éventrement provoqué par la percée de Via Cavour. Et là, je ne sais pas si Haussmann y était pour quelque chose. Entre-temps, la loi spéciale pour Rome de 1881 avait déjà défini l'intervention propre de l'État, prévu une convention avec la mairie, des financements en relation avec le futur regolatore. Alors, évidemment, lorsqu'on analyse ces lois spéciales pour la capitale, celle de 81 puis celle de 1890, on se pose un certain nombre de questions. Des questions qui deviennent même des interrogations lancinantes de l'histoire des politiques publiques romaines. Première question, n'est-on pas en train de museler la marge d'autonomie du Capitole, de la mairie, de la municipalité, notamment avec la loi spéciale de 1890 qui prévoit un étroit contrôle financier en échange d'une aide, mais un étroit contrôle financier, puisque je vous le rappelle, en 90, on est en pleine crise à Rome. Deuxième question, par ailleurs, n'aggrave-t-on pas au bénéfice d'une ville qui est décrite comme une ville mal gérée, prise par les scandales, les grandes faillites, n'aggrave-t-on pas les inégalités par rapport aux autres communes? Bref, ne gaspille-t-on pas son argent, et surtout l'argent de l'État, avec sa capitale? Ou pire, parce qu'il y a pire à cette époque, n'est-on pas en train de faire comme les Français? Crispi, en juin 1890, doit s'en défendre. Lui qui, nous le savons, est gallophobe, déteste, si j'ose dire cette généralité, les Français. Il proteste et dit qu'il ne veut pas faire de Rome una Parigi accentrando in essa tutti poteri et obligeant la population italienne à dépenser pour Rome tout ce que les Français ont dû dépenser pour Paris. Lorsque le plan régulateur de 1909 prévoit l'urbanisation de la campagne environnante, le maire d'alors, un des très grands maires de Rome, Ernesto Nathan, radical, mazzinien, juif, franc-maçon, anglais de naissance qui plus est, pour ajouter à son image de romanité difficile à l'époque, eh bien, le maire doit à cette époque lutter encore d'arrache-pied contre les grands propriétaires des environs de la périphérie de Rome. Cela dit, si ce n'est pas facile hors les murs de Rome, ce n'est pas facile non plus dans le centro murato. À l'intérieur des murs, le développement urbain est loin d'être maîtrisé au début du XXe siècle et bien souvent, le regolatore n'est pas respecté. Il reste que l'un des seuls défis que s'étaient lancés les pouvoirs publics, la circulation entre les deux rives, semble avoir été relevée de façon positive. L'Italie libérale a construit 7 nouveaux ponts entre 1877, avec le Ponte Ripetta, un pont en fer qui n'existe plus, en 1877, et 1911, avec le Ponte Risorgimento, qui, lui, est construit en béton armé, selon des plans projetés, selon la méthode du français Enbic. Les noms de ces ponts, des principaux de ces ponts, sont Garibaldi, Umberto, Cavour, Mazzini, Risorgimento. Ces noms nous transportent dans la Rome de la religion de la patrie, la religion de la patria, comme dira l'historien Massimo Baioni. Cette Rome de la religion de la patrie est l'un des aspects de la Rome des politiques culturelles avec lesquelles je vais désormais clore. Rome n'a pas attendu l'unité pour envisager des orientations, des axes de politique culturelle. On rappellera que l'état de l'Église est l'un des premiers dans la péninsule à se poser à Rome le problème de la tutelle du patrimoine archéologique, antique et artistique à travers la fameuse loi, l'édit du cardinal Pacca de 1820, conçue comme, je cite, « une véritable machine de guerre contre la dispersion ». On se rappelle le musée de Nom, on se rappelle l'époque impériale. C'est une réalité législative dont doivent désormais tenir compte ces nombreux voyageurs pour lesquels Rome constitue toujours un lieu traditionnel d'observation et de micro-érudition, comme l'ont montré tant de travaux importants sur le voyage en France et en Italie. Les autres lois systématiques de tutelle archéologique, artistique, sont évidemment des lois nationales. Elles datent de l'époque giolittienne, 1907 et 1909, mais elles laissent toujours à la ville son statut particulier. C'est qu'en effet, depuis 1870, le rapport entre État national, capitale et gestion de la culture et de la science a pris un sens nouveau. Je retiendrai pour finir très brièvement trois manifestations de ces relations. D'abord, le souci de développer des lieux de modernité culturelle et artistique. Puis, la volonté de faire de Rome une capitale scientifique. Et enfin, le triomphe d'une sorte de combat culturel, de Kulturkampf de l'Italie libérale, dont Rome devient le plus éminent symbole. L'idée que Rome ne doit pas seulement être le conservatoire des antiquités et des richesses de la Renaissance, mais nourrir aussi une vie artistique et culturelle moderne, se fait jour dès le milieu des années 1870, très précocement, et cela sans attendre les remises en cause tonitruantes des futuristes dont nous reparlerons peut-être. Le meilleur exemple en est la construction d'un palais des expositions inauguré Via Nazionale, en 1883, sur les plans de Pio Piacentini. Le palais frappe l'opinion nationale et internationale, je l'ai vu avec la presse française, en raison de ses dimensions, de son modernisme. Les travaux eux-mêmes ont été faits à l'électricité, grâce à des batteries qui sont prises à la gare. Et par sa hardiesse, il n'y a pas de fenêtre sur la façade, et il y a une immense salle ronde centrale que nous connaissons, éclairée par cette coupole sphérique. Mais face à ce palais, un ministre de l'instruction d'alors, Baccelli, projette d'installer des laboratoires universitaires scientifiques, de sciences pures, comme on dira, afin de réaliser, oui, il me reste 5 minutes que je vais utiliser, comme cela m'avait été demandé. Donc, Baccelli souhaite installer des laboratoires universitaires scientifiques afin de réaliser la synthèse le long de la Via Nazionale entre les arts d'un côté et les sciences de l'autre. Cette idée de Baccelli renvoie à la volonté post-unitaire de faire de Rome une capitale scientifique, plus encore que culturelle. Et elle renvoie à l'idée défendue par un grand ministre piémontais, Quintino Sella, ingénieur passé par l'École des mines de Paris, grand ministre des Finances. Pour lui, Rome doit devenir ou redevenir il cervello d'Italia, le cerveau d'Italie. C'est à lui que l'on doit le développement de l'Académie des Lincei, l'accroissement et le financement des chaires de la Sapienza, le développement de la Bibliothèque nationale et la restructuration de l'Archivio. Mais la capitale scientifique de Sella se révèle un demi-échec. C'est l'utopie de la politique de la science, comme dira un observateur de l'époque. Celle à lui-même s'en aperçoit lorsqu'il dit son désarroi, son amertume en écrivant à De Pretis au milieu des années 80, lorsqu'il apprend que le palais de Piazza Colonna, qu'il destinait à l'Académie des sciences, a été finalement vendu à un café. Il écrit « Et là, dans ce palais, che cosa vedrà il popolo di Roma? Che cosa scorgeranno gli stranieri? O tremenda umiliazione, vi vedranno il caffè. O humiliation terrible, ils y verront un café. » Derrière cette politique de la capitale scientifique, il y a surtout une ambition idéologique. Transformer la capitale de l'Église, du catholicisme, en une capitale de la raison et de la modernité. Et pour cela, il y a d'autres moyens encore plus efficaces en termes de politisation populaire. Il me semble, ce sera l'objet des quelques minutes qu'il me reste, que ce que l'État libéral italien a réussi à imposer à la ville de Rome, c'est son grand combat culturel et politique pour l'édification d'une nouvelle religion de la patrie. Certes, il ne s'agit pas d'une politique culturelle autonome, proprement dite, mais d'une renationalisation, parfois polémique, de l'ancienne capitale des papes. Les indicateurs sont trop connus pour que j'y insiste. Le plus important, c'est l'inauguration en 1911, lors du cinquantenaire de l'unité, du Vittoriano, fruit d'années de chantiers, de destruction de maisons, de monuments, comme le viaduc de Paul III, de couvents, comme celui d'Araceli. Mais symbole, comme l'ont montré les travaux magistraux de Brice et de Tobia, de la place de la monarchie dans le culte risorgimental. Pourtant, avant même l'inauguration du Vittoriano, que nous connaissons tous, dès lors que nous sommes allés une fois à Rome, dès avant cette inauguration, Rome devint le théâtre privilégié de ce Kulturkampf, de ce combat culturel à l'italienne, qui combat de façon vraiment désespérée, il faut le dire, l'empreinte de l'Église dans le décor urbain quotidien. Les noms de rues et de statues monumentales en sont les principaux vecteurs. Je suis allé, comme d'autres ici peut-être, ou tant d'autres ailleurs, travailler au magnifique Archivio Storico Capitolino. Ça, je dois dire, et ce n'est pas parce qu'il y a une représentante de la direction, ce n'est la directrice des archives italiennes ici présente, je dois dire que c'est l'un des plus beaux dépôts d'archives qu'il nous soit donné de visiter en Europe, hein, les archives capitolines à la Chiesa Nuova. Et là, outre la beauté et l'ordonnancement du dépôt, ce que l'on y voit, ce sont les registres des dénominations et de l'estrade et les actes du Conseil communal qui sont de vrais gisements montrant l'intensité des débats, la politique volontariste pour rappeler, je cite, les noms illustres du monde latin dans le quartier des Prati et pour infliger, en choisissant des noms de rues laïques, pré-chrétiens, pour infliger au proche Vatican tout ce que le pré-christianisme, le paganisme et l'anticléricalisme comptent de mieux. Quant aux héros du Risorgimento, ils s'emparent aussi, dans les années 70, des principales artères de la ville, via Cavour et Garibaldi en 73, Mazzini attendra 1911, et dès 73, Napoléon III aura, lui aussi, son viale à Rome, de quoi rendre jaloux tous les partisans de Napoléon III à Paris qui ont attendu le président Seguin pour qu'un segment de rue lui soit donné. Enfin, ces noms ont des visages et des silhouettes. Je me contenterai, sans même aller chercher le polémique monument à Giordano Bruno, d'évoquer les statues de Garibaldi et de Cavour, inaugurées, je vous le rappelle, toutes deux sur la rive droite du Tibre, la rive du Pape, en 95, pour célébrer les 25 ans de Porta Pia. Le président de la commission du monument Cavour ne peut pas être plus clair dans son adresse à la municipalité de Rome en novembre 1894, lorsqu'il écrit « L'assemblea fa viva premura al comune di Roma che voglia disporre l'inaugurazione del monumento in onore di Cavour per l'anniversario della liberazione di Roma stessa dal governo teocratico e di promuovere a questo effetto nella città la dimostrazione popolare. Je veux croire que ce n'est certes plus en ces termes d'étroite subordination que l'on évoque aujourd'hui les politiques publiques dans les villes capitales, mais dans le quotidien, dans les horizons de ces trois générations qui suivent l'unité de l'Italie, sans remettre en cause les héritages des deux premières Roms, de l'Antiquité et de la Renaissance, la laïcisation impérative de l'espace romain était, nous pouvons le dire, le seul vrai gage de modernité. Cette sécularisation a participé de ce qui fait, aux yeux de tous les observateurs étrangers, la spécificité de la ville, à savoir sa continuelle et vivante sédimentation que les politiques culturelles actuelles gèrent comme une authentique richesse. Je vous remercie de votre patience.